D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. En période de rentrée littéraire, ce moment où la littérature vivante est si vivante qu'elle en oublie presque qu'elle a eu un passé, il n'est peut-être pas mauvais d'apaiser son excitation par le souvenir d'un excellent écrivain disparu. Cet écrivain, c'est Rémy de Gourmont. Il est mort il y a 100 ans, le 27 septembre 1915. Cet anniversaire est une célébration nationale. Il y a des commémorations, il y a un colloque à Cerisy, il y a des rééditions, il ne reste plus qu'à le lire, le relire. Il a été très lu de son temps. Non qu'il ait eu le moindre de ce qu'on n'appelait pas encore best-seller, mais l'influence ne se mesure pas aux ventes, sans quoi le plus grand penseur des années 2010 serait Éric Zemmour. Rémy de Gourmont, qui est né en 1858 en Normandie et s'est établi à Paris très jeune, a écrit de bons poèmes, un roman très original, Sixtine, en 1890, et de remarquables essais comme « L'esthétique de la langue française » ou « Une loi de constance intellectuelle ». Il a été le promoteur d'une des écoles littéraires les plus vivaces de la fin du XIXe siècle, le symbolisme. Cela s'est fait grâce à l'appui d'une maison dont il était le principal éditeur, le Mercure de France. Son influence a donc été considérable et sur les esprits les plus originaux. En France, des auteurs aussi différents que Paul Valéry ou Blaise Cendrars ont été marqués par sa pensée. Il est un des héros du journal de Paul Léoto, à l'étranger, T.S. Eliot et Ezra Pound. Pound a même traduit son essai « Physique de l'amour ». Jean Cocteau a dit que l'idée de sa pièce de théâtre « L'aigle à deux têtes » lui a été donnée par la lecture d'un épilogue de Rémy de Gourmont. Épilogue, c'était le nom qu'il donnait à ses chroniques dans la revue du Mercure de France et qui était lu par tout ce qui comptait. Et on y trouvait dans ses épilogues une ironie, mieux que ça, un scepticisme qui tentait de donner la plus haute place à la pensée en esquivant la brutalité des temps. Et les dieux barbares savent s'ils étaient brutaux, comme les nôtres. Les années 10 du XXIe siècle, avec leurs chroniqueurs à coups de pilon et leurs journalistes autodiplômés philosophes, qui donnent l'impression que la pensée française s'est déplacée dans des vestiaires de rugby, à moins que ce ne soit dans des marchés aux poissons, auraient bien besoin de relire cet écrivain qui disait d'eux, je le cite, « Un imbécile ne s'ennuie jamais, il se contemple ». À l'occasion du 100e anniversaire de sa mort, je reçois pour parler de Rémy de Gourmont Vincent Gaugibu, chercheur à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et président du Cargo, c'est-à-dire le cercle des amateurs de Rémy de Gourmont. Vincent Gaugibu, un des moteurs du scepticisme de Rémy de Gourmont dont je parlais, est une notion qu'il a inventée et appelée, je crois, la dissociation d'idées.
C'est en effet la méthode qu'il a utilisée une grande partie de sa vie, car bien qu'il soit un grand écrivain, il fut aussi un grand critique. Et qui dit critique dit sceptique, et qui dit sceptique dit dissociateur d'idées. Et Gourmont, avec cette méthode de dissociation des idées, qui, si vous voulez, il met en place... il ne théorise pas très rapidement sur cette méthode, bien qu'il l'utilise depuis très longtemps. Il l'utilise au début des années 1890. Mais je pense que c'est en 1895, autour de ces années-là, que finalement il théorise et qu'il couche le concept de dissociation des idées. Dissociation est un terme scientifique à la base et on sent déjà l'importance et l'intérêt que Gourmont portait à tout cet héritage scientiste de l'époque.
C'est un terme de quoi au départ, dissociation ?
C'est un terme, je pense, de physique.
J'imagine que évidemment il le fait aussi contre dissociation d'idées, c'est l'opposé de l'association d'idées, non ? Donc comment ça marche ?
Ça part du fait que Gourmont a très tôt déniché le cliché et déterré les idées préconçues. Et en les révélant de ce fait, il les a mises au pilori pour mieux les combattre. Gourmont était un auteur, un écrivain, avec un grand « E », si vous me permettez, parce qu'il mettait la littérature au-dessus de tout. Mais malgré cela, il gardait une ouverture d'esprit sur l'actualité. Et c'est ce qu'il traduisait dans ses épilogues et ses dialogues des amateurs.
Les dialogues des amateurs, qu'est-ce que c'est ? C'était aussi des...
C'est un mélange savoureux, c'est un dialogue dans l'esprit de Flaubert. C'est le dialogue entre Monsieur de la Rue et Monsieur de Maison, des Maisons.
Donc deux personnages qu'il a inventés, et ça c'était aussi dans le Mercure de France.
Voilà, ce sont deux personnages qu'il a inventés, qui paraissaient mensuellement ou bimensuellement selon le rythme du Mercure, et qui sont l'exemple type de ce que l'homme de la rue, l'homme populaire, la pensée commune pouvait exprimer sur tel ou tel sujet d'actualité. Gourmand est un critique social finalement. En plus d'être un critique littéraire, il avait une vue très précise de ses contemporains et de la réalité qui l'entourait.
Donc, dissociation d'idées, ça veut dire qu'il s'oppose à des choses, qu'il s'oppose à des pensées communes, à des lieux communs, vous l'avez dit, ou à des clichés. En particulier, il s'est opposé à la religion. C'était un esprit très irreligieux, n'est-ce pas ? Venant, il faut l'expliquer, d'une famille très religieuse.
Très pieuse, très religieuse. Gourmand est né dans une ancienne lignée normande. Gourmand est né noble, il est comte. Mais il ne s'en est jamais targué, si vous voulez. Il revendiquait plus facilement une aristocratie d'idées et une aristocratie de pensées, dont la dissociation d'idées est l'expression même. Et en effet, Gourmand est né dans un petit village normand au nom imprononçable et très exotique, Bazoches-aux-Houlm. Et il est né dans une famille très pieuse, sa mère qui était de la lignée de Malherbe, a éduqué ses enfants dans un catholicisme très strict et très normand. Et Gourmand a été bercé très tôt de cette ambiance, de cette atmosphère, et s'en est détourné très rapidement.
Est-ce qu'on sait quand il l'a dit ?
Il y a une zone d'ombre dans la vie de Gourmand, c'est les premières années qu'il passe à Paris. Il semble que, à son arrivée à Paris, fort de ses études de droit très peu assidues à Caen, il arrive à Paris avec déjà des idées très précises sur la littérature, la philosophie et la pensée et les dogmes qu'il va combattre, si on peut dire, sa vie durant. Mais Gourmand est un homme de paradoxe, et un de ses plus fidèles amis, enfin si on peut dire ça, c'était l'abbé de son petit village, avec lequel il a mûri une réflexion sur la théologie, sur la philosophie, mais non pas sur la croyance.
Il faut dire d'abord, peut-être Vincent Gaugibu, qu'il a écrit un livre très important qu'il n'aurait peut-être pas écrit s'il n'avait pas eu son éducation religieuse, c'est Le Latin mystique, qui est un livre qui a beaucoup, beaucoup marqué beaucoup d'écrivains ultérieur et qui est encore réédité maintenant.
Absolument. Le Latin mystique, c'est une somme écrite en 1892, enfin parue en 1892, avec qui plus est un frontispice par Maurice Denis, le peintre Nabi. Et Gourmand établit déjà une forme de dissociation des idées sans la nommer dans ce recueil.
Qu'est-ce que c'est exactement ce recueil ?
Où justement, donc ce recueil, c'est l'expression de la décadence de la poésie latine à la fin de l'Empire romain. Et Gourmand établit là un parallèle savoureux entre sa propre contemporanéité, avec la décadence, l'afflux d'air neuf qu'apporte le symbolisme, et justement cette dualité entre cette querelle des anciens et des modernes, finalement, qui n'a rien de très nouveau. Et le latin mystique est l'expression de tout cela, avec en toile de fond toute cette esthétique catholique, toutes ces fioritures qui font le charme des cérémonies dans l'Église catholique, auxquelles Gourmand est resté très sensible toute sa vie. Alors, la légende veut que Gourmand recevait chez lui avec une robe de camaldule, une robe de prêtre, etc. Bon, c'est de la légende.
Ce livre, c'est à la fois un essai et une anthologie, le latin mystique.
Ce livre est un essai, une anthologie, et c'est aussi implicitement la critique du mouvement symboliste, par cette dénonciation de la fausse décadence de la poésie du bas-empire romain. Et ce livre a profondément influencé ses contemporains, au nombre desquels Blaise Cendrars.
Vincent Gaugibu, donnez-moi des exemples de la poursuite, si on peut dire, de la religion, mais dans un sens opposé à la religion, de Gourmand toute sa vie, car c'est vraiment une chose qu'il n'a pas cessé de faire. Et qu'ait été le type de religion, que ce soit les catholiques, les protestants, enfin, en gros quand même, les religions chrétiennes.
Essentiellement. Et essentiellement les protestants, je serais tenté de dire. Il avait pour le protestantisme une aversion viscérale. Et lui qui se voulait si philosophe détaché avait quand même quelques hochets dont il ne pouvait pas se défaire, au nombre desquels l'Académie française, l'État, l'armée et le protestantisme. Alors tout ceci devait bien évidemment satisfaire Gide, un bon protestant qu'il était, mais Gourmand, vis-à-vis du protestantisme, avait une pensée très dure. Il voyait dans la réforme un dévoiement des beautés du catholicisme. Alors, j'ai bien dit tout à l'heure que Gourmont était un être paradoxal. Mais Gourmont, s'il déplore, s'il rejette la croyance, s'il condamne le dogme, n'en demeure pas moins sensible aux apports esthétiques et artistiques de la foi catholique. Et c'est en ce sens aussi, car il y a bien sûr un présupposé moral très important, qu'il condamne le protestantisme, qui est un affadissement de ce qu'a pu apporter de beau le catholicisme.
C'est vous qui le dites, ou c'est lui ?
Je prends le devant.
Quelle a été sa position au moment de la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'il était là, en plein dedans, et c'est une question qui est à nouveau très importante de nos jours ?
Gourmont était, comme nous l'avons vu tout à l'heure, un esprit très au fait de l'actualité. En bon critique social, il était au courant de ce qu'il se passait. C'était un grand lecteur de journaux. Et il écrivait, évidemment, dans des journaux. Et au moment de cette loi de séparation de l'Église et de l'État, la personnalité de Gourmont a intéressé beaucoup de partisans. Mais le mot partisan, déjà, est un mot étranger au vocabulaire de Gourmont. Et Gourmont, lors de cet incident historique, est resté littéralement en dehors. Il n'a pris parti, ni pour, ni contre. Il trouvait ça trivial, limite grossier, de prendre parti pour l'État ou pour l'Église, qui sont, ne l'oublions pas, deux entités auxquelles il s'était quand même frotté depuis longtemps.
Est-ce que ce qui ne le retenait pas de prendre position, c'était l'agressivité de certains partisans, justement au moment de la séparation de la loi de l'Église et de l'État? Un certain Allard, qui était député socialiste du Var, avait proposé de transformer les églises en cafés-concerts, et ça c'était sans doute un peu trop pour Gourmont, qui avait écrit, je le cite, « Les Allards d'aujourd'hui, esprit timoré, faux terroriste, socialiste à la blague, n'osent pas dire hardiment « mettez le feu aux églises, modestes et timides, ils veulent en faire des greniers à fourrage et rostrates à la colique. »
Et pourtant, Gourmont était partisan des cafés-concerts, il y allait souvent, mais c'était trop pour lui, car il y avait un grand attachement au décorum de l'Église catholique. Alors, c'était de l'ordre non pas du sacrilège, mais de l'absurdité de dévoyer une Église en café-concert.
Or, pourtant, Vincent Cogibu, il a écrit des contes et des nouvelles, où, surtout dans sa jeunesse, où on voyait derrière un autel un prêtre faire l'amour avec une femme. Si c'est pas du sacrilège, qu'est-ce que c'est ?
C'est de la modernité. Regardez sa pièce Théoda, c'est l'histoire d'un évêque qui ne parvient pas, une fois qu'il est nommé évêque, à se départir de son ancienne maîtresse, de sa femme. Il y a chez Gourmont et du paradoxe et de la modernité. Les épilogues en sont la preuve et finalement son positionnement éthique sur des sujets d'actualité tels que la loi de séparation de l'Église et de l'État révèle une forme de modernité dans cet engagement qui est une forme de non-engagement dans un positionnement intellectuel et philosophique qui participe de sa démarche philosophique de dissociation des idées qui est ni plus ni moins une version modernisée de la maïotique de Socrate. Il est aussi très normand, ça, je pense que c'est un fond de son caractère.
Nous allons entendre Jean Cocteau, dont la voix se trouve d'ailleurs dans le générique de Secret professionnel. Il explique comment il a écrit sa pièce « L'aigle à deux têtes » après avoir lu une chronique de Rémy de Gourmont. C'est extrait de Midi Actualité du 17 juin 1960.
Gérard Barret jouera dans L'aigle à deux têtes, Gérard Barret remplaçant Jean Marais qui avait créé le rôle et qui est la vedette d'À bout de souffle, Guy Tréjean et Yves Vincent, dans Constance. C'est pour Constance, Guy Tréjean et Yves Vincent. Je suis en train
vous perdez tous dans le théâtre un peu et les festivals.
Oui, je dois dire que trois pièces à la fois.
Allez, rassemblez vos esprits, oui.
Oui, mais ça y est.
Constance, ça y est, c'est
oui.
Ça.
Oui, alors, donc à ce déjeuner assistait Jean oui. Cocteau.
Ah, ben c'est ça, voilà où il fallait en arriver.
Oui, d'autant plus que lorsque Jean Cocteau préside un déjeuner, le déjeuner est fort animé et fort agréable, car tout le monde le sait, il a de la conversation. C'est pourquoi nous lui avons tous posé des questions, et je lui ai demandé tout d'abord de nous rappeler, en tout cas, le thème de L'aigle à deux têtes.
Vous savez qu'un grand-duc avait tué un aigle, et il était très étonné que l'aigle n'ait pas deux têtes. Tellement pour eux, l'aigle à deux têtes, c'est une évidence. Et Christian Bérard m'avait dit, on devrait être dans... J'avais écrit la pièce pour Marguerite Jamois. Et il voulait me faire faire une pièce sur Louis II de Bavière. C'était très difficile. Et tout à peu, la pièce, l'idée a évolué. Et Jean Marais m'avait dit, j'aimerais jouer une pièce où je ne dis rien au premier acte, où je pleure à la fin du second acte et où je tombe à la renverse dans un escalier à la fin du troisième. enfin, on m'a demandé un espèce de tour de force. Et c'est sur cette base que j'ai écrit L'Aigle à deux têtes, en m'inspirant beaucoup de la vie de l'impératrice Elisabeth, mais beaucoup de loin, de très loin. C'est que les Autrichiens ont été un peu choqués, ils ont tort, parce que je n'ai pris que le côté très émouvant et très beau de la reine. Ce sont ces familles qui ont rêvé d'être des peintres, des poètes, des musiciens, et qui ne pouvant pas écrire de musique et faire de peinture et composer des poèmes, ont voulu être des, eux-mêmes des œuvres, des chefs-d'œuvre, et même des tragédies. Et dans ma pièce, la reine veut être une tragédie.
Et quel accueil avait reçu la pièce à sa création ?
On a eu un vrai, un insuccès de presse parce que c'était une pièce théâtre, et qu'à l'époque, les pièces étaient, intellectuelles. C'était le théâtre intellectuel. Et j'ai voulu faire du vrai théâtre. Et la pièce passait pour un mélodrame. Et peu à peu, on s'est rendu compte que la pièce était du théâtre. Et le succès a été considérable, le succès public a été considérable.
Eh bien, monsieur, vous avez entendu ? Comment vous appelez-vous ? Vous refusez de me dire votre nom, je vais vous le dire. La mémoire des souverains est terrifiante, vous vous appelez Stanislas.
Alors Vincent Gaugibu, nous sommes aussi en plein centenaire de la guerre de 14. Tout à l'heure, vous avez employé le mot armée à côté de la religion. Et il faut rappeler qu'en 1891, Gourmont, qui avait trouvé un emploi en arrivant de Normandie, et il était attaché des imprimés à la Bibliothèque nationale, en a été renvoyé à cause d'un article qui est resté célèbre, qui s'appelle « Le joujou patriotisme », où il attaquait, non pas, comme on le dit souvent, l'Alsace et la Lorraine, et se moquait de la perte de l'Alsace et la Lorraine, mais il se moquait des associations qui allaient tous les jours mettre des fleurs au pied des statues des villes, place de la Concorde, en faisant des déclarations guerrières. Et il dit, je cite, « Personnellement, je ne donnerai pas un échange de ces terres oubliées, ni le petit doigt de ma main droite, il me sert à soutenir ma main quand j'écris, ni le petit doigt de ma main gauche, il me sert à secouer la cendre de ma cigarette. » Alors c'est un peu insolent, mais il s'explique un peu plus loin en disant « La question du reste est simple, l'Allemagne a enlevé deux provinces à la France » qui elle-même les avait antérieurement chippées. Vous voulez les reprendre ? Bien. En ce cas, partant pour la frontière. Vous ne bougez pas ? Alors foutez-nous la paix.
Gourmont a 33 ans lorsqu'il écrit ceci. C'est un jeune auteur. Le Mercure de France, dont il fait partie des fondateurs, est tout récent. Il a son premier numéro date de janvier 1890. Alors il faut replacer l'apparition de cet article dans le climat politique de l'époque qui était on ne peut plus tendu. Et Gourmont, ce jeune auteur quasiment inconnu, reconnaissons-le, ose s'en prendre ouvertement comme cela, avec une ironie franche et nette, à la notion de patriotisme. Dans des temps où Paul Déroulède vocifère en haut des tribunes, réclame la restitution de l'Alsace et la Lorraine, où le général Boulanger parade dans des grands défilés militaires, Gourmont, lui, avec sa plume, dissocie finalement la notion de patrie et la notion de patriotisme et d'esprit de revanche, qui est le fonds de commerce de Déroulède. Et Gourmont, avec cet article, récupère les suffrages des antipatriotes qui n'ont pas compris finalement la démarche de Gourmont. Et le bienfait de cet article, c'est quoi ? En définitive, Gourmont perd sa place d'attaché à la Bibliothèque nationale, lui-même considérait son poste comme sous-épousteur adjoint. Et il obtient l'anathème de toute la profession et de toute la presse à l'époque. Et Gourmont, jeune auteur de 33 ans, au devenir incertain, perd pied. Et toutes les portes se referment. Et c'est là qu'intervient Octave Mirbeau. Octave Mirbeau qui prend ouvertement position pour Gourmont dans un article du Figaro qui s'appelle « Les beautés du patriotisme » où finalement il revient, il explique, il fait une explication de texte de l'article de Gourmont qui était trop subtil pour être perçu par les lecteurs et par l'opinion publique. Mais si vous voulez, cet incident a marqué durablement Gourmont, plus qu'il ne veut bien le dire. Gourmont, alors nous sommes là en 1891, et Gourmont, par la suite, va beaucoup plus mesurer son propos pour éviter ce nouvel écueil. Si bien qu'il va commencer à écrire un roman anarchiste entre 1893-94 et 1899, un roman qui s'appelle « Le désarroi » et qu'il ne publiera pas. volontairement parce que ce roman est une gifle éthique et esthétique. Il revient, là encore, dans ce roman, sur le climat politique de l'époque, qui est un climat très violent, avec des bombes, des attentats. Caserio fait exploser une bombe à la Chambre des députés. On assassine des présidents de la République. C'est un climat très tendu. Eh bien, Gourmont, dans ce roman, revient là-dessus, mais toujours sous le prisme de la dissociation des idées, où il revient finalement sur la méthode des anarchistes et le besoin d'anarchie. Gourmont est un aristocrate d'idées, un anarchiste à particules, si vous voulez. Et ce roman, il ne le publiera pas. Il a été publié par la suite, en 2006, tout récemment, finalement. Et si vous voulez, il en paiera le prix aussi bien plus tard, parce que au moment où la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Gourmont, qui commence à être malade et à vieillir, à sentir un peu sa vie se filer entre ses doigts, se retrouve acculé, intellectuellement j'entends, à des constats qui remettent en cause ses prises de position qui datent du joujou patriotisme.
Avant d'en revenir là, Vincent Gaugibu, je crois qu'il y a une chose aussi à dire parmi toutes les explications que vous nous donnez, c'est que une des choses qui caractérise probablement Gourmont est aussi le détachement. Et vis-à-vis de ce licenciement de la Bibliothèque nationale, on sait très bien, si on compare aujourd'hui, que des tas d'écrivains ou d'intellectuels auraient bénéficié de ça en faisant un très très grand tapage en disant « j'ai été viré, pétitionné pour moi », etc. Lui n'a absolument pas fait ça, et ça c'est une des très grandes élégances qui le caractérise, non ?
Vous avez raison. Il est resté en dehors du tourment qu'il avait pu créer. Il a coupé court aux campagnes de protestation et aux pétitions qui circulaient, initiées par le Mercure de France, par ses collègues du Mercure, au nombre desquels le directeur, Alfred Valette, et les autres. Gourmont a très rapidement coupé court, a voulu tourner la page, a voulu aussi se retrouver une condition. Alors, si j'avais un esprit retors, je dirais que ça a été un formidable coup de pub pour lui. Parce que, regardez, tant d'années, on en parle encore. Et Gourmont a été à tout jamais associé à cet incident du joujou patriotisme.
Alors, dissocions-le, Vincent Gaugibu, et revenons à la guerre de 14. Enfin, en un mot, ce qui s'est passé, c'est qu'en 14, Gourmont a écrit dans les journaux, et puis il est subitement devenu patriote, en rageant d'ailleurs son ami Léoto, qui ne cesse de pester contre ça dans son journal littéraire.
Léoto lui a reproché cette palinodie, ce revirement, et ce reniement, finalement, du joujou patriotisme. À mes yeux, c'est différent, c'est plus fort que cela. Gourmont, dans le joujou patriotisme, dissociait l'esprit revanchard qui utilisait la notion de patrie à des fins faussement patriotiques. Et il essayait de faire comprendre à l'opinion publique, on dirait maintenant, que c'était galvauder une notion qui, finalement, pouvait être grande. Et lorsque la patrie est attaquée, en 1914, l'heure n'est plus à la dissociation des idées ou au patriotisme, enfin au patriotisme revanchard, j'entends. Mais l'heure est en effet au patriotisme et au soutien national, en mettant toutes les guillemets qui vont avec ce mot. L'heure est à la défense, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il écrit à Alfred Valette « L'importance des canons importe bien plus maintenant. Maintenant que nous sommes attaqués, que le pays est attaqué, il convient de se défendre. » Gourmont n'est pas un belliqueux, mais ce n'est pas un pacifiste.
Est-ce qu'il a pris position sur Romain Rolland, qui, comme on sait, lui a été pacifiste ?
Il n'y a pas malheureusement de lien, de correspondance ou quoi que ce soit entre Romain Rolland et Gourmont, mais ils partagent l'un et l'autre une même volonté à l'époque de sauvegarde du pays, tout simplement. Mais il l'exprime différemment. Et ce que Léoto, finalement, a reproché à Gourmont, c'est de vouloir faire la guerre. Mais Gourmont ne voulait pas faire la guerre, il voulait simplement se défendre. C'est aussi simple que ça.
D'ailleurs, il faut peut-être dire aussi que quand on dit article patriote, on pourrait laisser penser que c'était des articles la fleur au fusil. Or, les articles de Gourmont sont infiniment différents de ceux de Maurice Barrès, que d'ailleurs il a toujours détesté et qu'il a toujours attaqué dans le Mercure de France en se moquant de lui et de ses postures. Par exemple, Gourmont, dans ses articles, dit qu'on ne lui fera pas employer le mot « Bosch » et que ce n'est pas parce que Wagner était allemand qu'il le critiquera. Ce qui était, à la fin de tout, qui était une position relativement audacieuse pendant la guerre, non ?
complètement. D'aucuns critiquent ont vu en Gourmont un philosophe dansant. Et c'est vrai que son positionnement pendant la Première Guerre mondiale, c'est celui d'un philosophe sur la crête d'une montagne qui oscille entre un côté et un autre. Et Gourmont, finalement, voyez en l'Allemagne un des plus grands pays intellectuels d'Europe, au même titre que la France, parce que l'Allemagne a porté tel et tel philosophe, tel et tel musicien, tel et tel artiste, ce qu'il disait clairement dans le joujou patriotisme. Mais il n'a pas fait le jeu des anti-Bosch, des anti-Allemands. Son positionnement était non pas neutre, mais juste. À telle enseigne que son affection pour l'Allemagne toute relative a été récupérée par la presse collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ah bon ?
Et j'ai trouvé ça tout dernièrement et ça m'a glacé le sang parce que, comme quoi, quand on fait des coupes dans un texte, on peut faire dire à un auteur mort ce que l'on veut bien lui faire dire. Et la presse collaborationniste, en 1942 notamment, a récupéré la position de Gourmont du joujou patriotisme où il disait « l'Allemagne a porté les plus grands penseurs », etc. à des fins de propagande. Et c'est fâcheux.
Vincent Gaugibu, le secret professionnel du scepticisme de Gourmont, on le dit depuis tout à l'heure, c'est donc cette dissociation d'idées, c'est-à-dire au fond ne pas associer les termes du raisonnement comme le fait machinalement la plupart de l'humanité. Comment est-ce que aujourd'hui vous pensez que il y a des dissociateurs d'idées à la Gourmont? Est-ce que c'est nécessaire et comment ça s'applique si ça s'applique de nos jours? Parce que finalement on vit des temps très tapageurs aussi et de retour des religions et de...
Absolument. Mais s'il y a une réforme de l'enseignement, il devrait y avoir une chaire de dissociation des idées. Je pense que l'esprit critique est une denrée rare. C'était ce qui faisait le charme de l'esprit français jadis et qui peut-être se perd. À mes yeux, aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes qui puissent revendiquer, pratiquer la dissociation des idées. Il faudrait en faire, comme je le disais en préambule, une action de nécessité nationale.
Mais c'est aussi compliqué parce que tout simplement, dans la grande presse, on sait que la grande presse fonctionne à coups de marteau et n'aime pas beaucoup les finesses. Et Gourmont était un artiste de la finesse. Et ça, on sait très bien que dans les médias, et qui plus est de nos jours, où les grands médias, c'est la télévision, cette expression de la finesse n'est plus très possible, non ?
N'est plus très possible pour la simple et bonne raison que tout va résolument trop vite et qu'un tweet peut dévaster une carrière ou dévaster une personne. Et je pense que réellement considérer Gourmont, enfin du moins sa méthode aujourd'hui, ça revient à une forme d'introspection et de ralentissement de soi.
Pour finir, je voudrais laisser la parole à Gourmont et je vais citer une phrase de lui qui montre à la fois l'originalité de sa pensée, la dissociation d'idées dont nous parlons avec Vincent Gaugibu tout à l'heure, et cette dissociation d'idées, il l'applique à lui-même, au scepticisme et à l'ironie. Et voici cette phrase qui est extraite de ses Promenades littéraires. « Le critique sceptique, toujours en défiance même contre sa propre sensibilité, est mené par la peur d'être dupe. Il adopte volontiers le ton de l'ironie ou même celui du badinage. Il craint l'enthousiasme comme une maladie et se tire de toutes les difficultés au moyen d'un sourire et parfois d'une grimace. » C'était Secret Professionnel, le 186e. Réalisation, Laurence Millet et Clotilde Pivin. Attaché d'émission, Daphné Abgral. Prise de son, Stéphane Touvenin. Dans un instant, Joël Gaillot, une saison au théâtre.